VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La justice sud-africaine a rouvert aujourd'hui la voie à un éventuel procès pour corruption contre le président Jacob Zuma dans une affaire de vente d'armes qui tient le pays en haleine depuis une bonne dizaine d'années. La Cour suprême de Bloemfontein a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds dans le cadre de ce dossier. Très attendu donc, cette décision renvoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. En République démocratique du Congo, l'opposition parle de déclaration de guerre au peuple congolais. C'est en ces termes qu'elle a réagi à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sur la tenue des élections en 2019. Écoutez la réaction de Willy Delor Ongenda, porte-parole politique du Présidium de la Transition sans Kabila.
La CENI est en complicité avec M. Kabila pour le glissement sans fin parce que M. Kabila voudrait se maintenir au pouvoir indéfiniment. Au niveau du DNTCCT, nous ne reconnaissons plus le régime de M. Kabila que nous considérons comme un citoyen ordinaire. M. Kabila n'engage plus la République démocratique du Congo. M. Kabila est arrivé par la force, un coup d'État au Congo et donc il veut partir par la force. Quand tous les moyens pacifiques sont épuisés, la violence, comme disait Nelson Mandela, devient légitime. Voilà où nous amener M. Kabila.
Willy Delor Ngenda, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition. Le Burkina Faso commémore ce dimanche 15 octobre les 30 ans de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara lors d'un coup d'État qui porta au pouvoir l'ex-président Blaise Compaoré. La chute de ce dernier donne une occasion de pouvoir enfin connaître la vérité. Maître Benewende Sankara, avocat de la famille, est optimiste.
Le dossier Thomas Sankara est toujours dans le cabinet du juge d'instruction et qui n'a pas encore clôturé le dossier. C'est vrai que la recherche de l'ADN est restée fructueuse, mais il y a eu d'autres expertises, comme l'expertise balistique. Il y a aussi beaucoup de témoins, plus d'une centaine. Maintenant, les questions de procédure et d'implication, notamment d'autres pays comme la France où il y a une commission rogatoire, comme d'autres personnalités qui ont dit des choses dans des journaux qui seront également entendues, font que le dossier nécessairement doit traîner.
Des centaines de partisans de l'opposition ont commencé à manifester aujourd'hui dans les principales villes du Kenya, bravant l'interdiction du gouvernement pour faire entendre leur voix en vue de la présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement kenyan a interdit jeudi les manifestations dans les centres d'affaires des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, en raison de la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public. Mais les partisans du leader d'opposition, Raila Odinga, n'ont pas hésité à défier cet ordre. Des Tunisiens en colère après le décès de jeunes de leur région dans une collision entre une embarcation de migrants et un navire militaire ont mis le feu jeudi au siège d'une administration. La collision a fait au moins 8 morts dimanche soir et des ONG craignent que le nombre de disparus ne s'élève à une quarantaine de personnes. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires dans cette ville du centre du pays située à près de 500 km de Tunis, la capitale. L'UNESCO continue à se chercher un nouveau directeur général au lendemain du retrait des États-Unis et d'Israël de l'organisation qu'il accuse d'être anti-israélienne. Au quatrième tour de vote jeudi, les 58 pays membres du Conseil exécutif ne sont parvenus à désigner qu'un seul des deux finalistes, le Qatari Ahmad bin Abdulaziz Al-Kawari, qui a reçu 22 voix, arrivé en seconde position ex aequo avec 18 voix chacune, les candidats françaises Audrey Azoulay et égyptienne Mouchira Katab devront être départagés par un nouveau vote ce vendredi même à 12h GMT. La Turquie a déployé des dizaines de soldats et des blindés dans la province syrienne d'Idleb pour commencer à y instaurer une zone de désescalade visant à mettre fin au combat dans cette région contrôlée par les djihadistes. Ce déploiement d'Ankara semble également viser à empêcher l'expansion dans le nord de la Syrie de milices kurdes soutenues par les États-Unis, mais considérées par la Turquie comme des groupes terroristes. Cette opération survient en plein réchauffement des relations entre la Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, parrain du régime syrien, qui ont négocié avec l'Iran un accord à Astana, capitale kazakh, prévoyant 4 zones de désescalade en Syrie, dont un à Idlib.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h05. C'est aujourd'hui que le président américain Donald Trump doit se prononcer sur le sort de l'accord sur le nucléaire iranien. On s'attend à ce qu'il le fragilise sans aller jusqu'à le déchirer en refusant de certifier le fait que Téhéran respecte ses engagements. Une non-certification enverrait la balle dans le camp du Congrès américain qui aurait alors 60 jours pour décider de réimposer ou non les sanctions levées depuis 2015. Les Marines des États-Unis et de la Corée du Sud donneront le coup d'envoi la semaine prochaine à un important exercice naval, nouvelle démonstration de force à l'intention de la Corée du Nord et de ses programmes nucléaires et balistiques. Les tensions sur la péninsule sont à des sommets ces derniers mois à cause de la multiplication des tirs de missiles par Pyongyang, qui a également amené le 3 septembre son plus puissant essai nucléaire à ce jour. On termine par du sport et du football notamment. Dans une interview exclusive accordée à VOA Afrique, la secrétaire générale de la FIFA revient sur l'organisation de la Coupe du Monde 2018 en Russie et sur le processus de réforme au sein de la Fédération internationale de football. Nicolas Pineau a joint Fatma Samoura qui assure que la transparence et la bonne gouvernance sont une réalité à la FIFA.
C'est un travail quand même qui ne se fait pas en une année. Moi, je suis en place depuis un peu moins d'un an et demi, 16 mois exactement. Ce que je peux vous dire au niveau de la diversité, c'est quelque chose, déjà c'est un pari qu'on a remporté. Au niveau des confédérations, il y a minimum une femme qui est représentée. Donc nous sommes 7 femmes au niveau du conseil de la FIFA, alors qu'il n'y en avait qu'une seule avant mon arrivée. Mais le plus important pour nous, c'est de voir qu'il y a un peu plus de gouvernance. Maintenant, on a un officier chargé de tout ce qui est conformité, compliance, et 8 personnes qui s'occupent du monitoring et du suivi des fonds que nous allouons aux 216 associations membres et à nos 6 confédérations, puisque nous avons quand même multiplié par plus de 3,5 les ressources que nous leur allouons. On est passé d'une quarantaine de pays qui étaient soumis à un audit à 76 et nous pouvons passer à 100 pays, donc un suivi beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict. Il reste encore à travailler sur les réformes, mais nous continuons le travail.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la santé financière de la FIFA? Je crois que l'exercice 2016 a été déficitaire. Faut-il s'inquiéter?
Notre situation financière est super solide. Nous travaillons sur des cycles de 4 ans et avec un résultat net de plus de 100 millions attendu à la fin du cycle, donc l'année prochaine. Concernant le déficit, les 3 premières années, nous finançons des compétitions, des opérations. Nous, ne déclarons des bénéfices que lorsque la Coupe du Monde a déjà eu lieu et on n'a aucune inquiétude. Nous avons des réserves obligatoires de plus d'un milliard de francs suisses et ces réserves, on peut toujours les utiliser à tout moment. Mais pour l'instant, ce déficit n'est qu'un déficit d'exercice et d'écriture, mais pas un déficit au niveau de la santé financière de l'institution.
Alors à Bahreïn, le président Infantino a affirmé que la crise de la corruption à la FIFA était terminée, qu'elle ne se reproduirait plus jamais. Est-ce qu'on peut croire justement que la transparence est désormais de mise à la FIFA?
Le président Infantino a parfaitement raison lorsqu'il dit que la crise est terminée. Les personnes qui avaient commis des fautes, aussi bien au niveau des confédérations que des associations membres, ont fait l'objet d'inculpations. C'est maintenant une nouvelle direction qui a été mise en place. Mais au-delà de ces personnes, le plus important pour nous, c'est la mise en place de ces réformes pour que ce genre de situation ne se reproduise pas en renforçant notre système de contrôle et de monitorage, mais en étant beaucoup plus proche de nos associations membres et de nos confédérations pour les conseiller afin que leur gestion soit plus transparente et plus conforme aux nouvelles réformes.
Fatima Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, une interview à retrouver sur notre site voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Bon après-midi et bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.